On souhaite pas ça à personne. Et franchement, dans ces moments-là, la politique prend le bord. Je vous parle, bien sûr, de l'affaire impliquant Geoffroy Barrette, 23 ans, fils du ministre de la Santé Gaétan Barrette, arrêté pour délit de fuite et libéré il y a quelques minutes là, sous promesse de comparaître. Il ferait face à des accusations de délit de fuite causant des lésions et conduite dangereuse également. Alors évidemment, d'abord, on pense au cycliste, gravement blessé, mais sa vie n'est pas en danger, encore une fois, aux dernières nouvelles. On se demande pourquoi tu prends la fuite quand tu viens de frapper quelqu'un avec ton véhicule. Puis on pense aussi aux victimes collatérales, dont les parents, dont le ministre. Et on se demande pourquoi un adulte accusé pour un délit est présenté surtout comme le fils de, alors que le parent n'a rien à voir avec le délit. Et soit dit en passant, vous l'avez peut-être entendu aux informations, là, il y a eu une correction des faits qui a été faite là, dans les dernières minutes. Son permis à Geoffroy Barrette n'était pas suspendu. Ça justifie évidemment rien de son délit de fuite, mais c'est une information qui est importante. Donc, il avait le droit de conduire au moment où sont arrivés les faits. Alors donc, je vous pose la question. Hein, pourquoi un adulte qui est accusé pour un délit est présenté comme le fils d'eux? Et on va aller en discuter avec Marc-François Bernier, professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa. Marc-François, bonjour.
Bonjour.
La raison pour laquelle je voulais qu'on fasse ce sujet-là, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive. On se rappelle évidemment de Guy Lafleur, mais il y a eu à un moment donné le fils de Denis Coderre. C'est comme ça qu'on l'a présenté. Mm-hmm. Si ça n'avait pas été le fils de Denis Coderre, on n'aurait pas parlé. Il y a eu le fils de Jean Chrétien aussi à un moment donné. Vous devez vous en rappeler.
Très bien.
Hein? Alors, puis je vous pose la question. Comment vous voyez ça, vous? Est-ce que c'est le prix à payer pour être un personnage public, pour être une personnalité politique, sportive, peu importe?
Ben, moi, je regarde ça du côté de l'éthique du journalisme. C'est ma spécialité. Puis d'abord, je me pose la question, pourquoi on fait ça? Hein? Le pourquoi là, est important aussi. Souvent, c'est dû à des raisons économiques. Les médias veulent avoir de l'achalandage sur leur site Internet, d'une part. Donc, une dimension là, d'intérêt particulier d'entreprises de presse et médias là-dedans. Puis, il y a aussi une conception très large de ce que c'est que l'intérêt public. La deuxième question, elle touche un peu à la question que vous posez, c'est est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est fair, en bon français, de traiter les gens de cette façon-là, surtout quand la personnalité publique, le ministre dans ce cas-ci, a aucun lien avec les événements, là, sinon que ça aurait été son véhicule, mais ça ne change pas sa participation à l'incident ou à l'accident, même au drame. Donc, la question, c'est juste? Puis, dans les codes de déontologie des journalistes, ce qu'on dit, c'est publier des choses d'intérêt public, mais exagérez pas les conséquences néfastes pour les gens qui sont mis en cause.
Qu'est-ce que vous
voulez
dire?
Donc, d'une certaine façon, les personnalités publiques sont injustement traitées parce que pour elles, un drame qui arrive dans leur entourage est plus grand, prend plus de poids, sont un peu plus stigmatisés parce qu'elles sont sous le regard public, même si elles n'ont rien à voir avec l'événement.
Oui, mais moi, je vais vous dire, pour avoir été un personnage public, puis en être un encore, là, mais un personnage politique, je pense que ça accroît le niveau de responsabilité. Là, les journalistes, mettons, sont encore plus insistants, puis encore plus pointilleux, puis encore plus exigeants dans la vérification des faits, puis dans la reddition de comptes éventuellement. Puis il faut vraiment pas là, que tu aies le début de l'ombre d'une petite responsabilité, là, parce que là, vraiment, tu es sous la loupe, puis ils vont te crucifier là, si tu as quelque chose à te reprocher. Mais moi, j'en suis venu, Marc-François, à la conclusion que c'était le prix à payer. Puis c'est un prix très élevé, puis je pense que ça décourage beaucoup de gens, d'ailleurs, à aller en politique, là.
Une des réflexions qu'on voit chez certaines personnes puis certains auteurs, c'est que quand vous estimez que c'est important votre réputation, votre dignité, votre vie privée, le bien-être de vos enfants, à un moment donné, ça fait en sorte que les gens qui prennent ça au sérieux, ces aspects-là, ils font le calcul coût-bénéfice puis ils disent « Est-ce que je vais sacrifier tout ça pour la vie publique? » Et s'ils disent non, mais qui se retrouve dans la vie publique? Mais c'est des gens qui n'ont pas ces considérations-là, hein, qui se foutent un peu de leur réputation, qui se foutent un peu de la dignité, tout ça. Je ne sais pas si c'est bon, en général, pour l'intérêt public, d'attirer dans la vie publique des gens qui ont moins de préoccupations humaines. Vous comprenez, à long terme, c'est peut-être pas une bonne chose d'avoir dans l'espace public des gens qui prennent pas au sérieux ces questions-là de dignité puis de réputation parce que ça les dérange pas de faire un peu n'importe quoi puis d'être malmenés dans les médias.
Oui. Mais en même temps, je vais vous dire, tu sais, avec la présence des réseaux sociaux, là, Marc-François, là, si les médias traditionnels qui sont assujettis à un certain nombre de règles d'éthique ne traitent pas l'information, on s'entend-tu là, que ça va sortir, là, ces réseaux-là? Mettons là, que les médias avaient décidé, là, on ne parle pas du ministre, on parle juste de Geoffroy Barrette. Moi, je vous garantis, là, dans l'heure qui suit, là, ces réseaux-là, ça se met à spinner partout. Là. Puis c'est le fils à Barrette, puis c'est ci, puis c'est
ça. Pourquoi les médias ne le disent pas? Ils nous cachent les choses.
Ben voilà, voilà. Puis là, mais... tu comprends? Fait que moi, je pense que t'es mieux. Tu sais, Cogeco, puis tous les autres réseaux, on a des règles journalistiques, des règles d'éthique qui nous obligent à faire les nuances, puis qui nous obligent, tu sais, comme là, tout de suite, quand on a su que le permis, finalement, il était pas suspendu, contrairement à ce qui avait été rapporté à l'origine, ben dans le bulletin de midi, tout de suite, on l'a dit, il y a comme une espèce d'obligation de responsabilité professionnelle qui vient avec le rôle d'un média important. Et donc, moi, je
ne dis pas qu'il faut pas en parler. Hein. Ce que je dis, c'est que mettre le lead, le titre là-dessus, plutôt que le mettre dans le texte à quelque part, c'est la différence. C'est dans le traitement de l'information. Je pense qu'on ne peut pas ne pas en parler. Ça, c'est évident parce que ça va. Déjà, les médias ont mauvaise réputation dans l'espace public, bien sur les médias sociaux.
C'est vrai.
Faut pas alimenter ça non plus par prêter flanc aux attaques là, excessives sur les fake news et les conspirations, les théories du complot. Là. Ça, c'est... Mais la différence entre ce que je voulais évoquer, c'est pourquoi c'est le titre. Pourquoi c'est le titre Gaétan Barrette qui est dans le titre? Tout à l'heure, j'ai entendu, c'est Geoffroy Barrette. Ben, il fallait lire loin dans l'article pour savoir c'était qui et qui était la personne.
Oui. L'autre chose, en terminant, là, puis évidemment, je n'excuse absolument en rien la gravité des incidents de la nuit dernière, là, mais dans certains cas, le pire là-dedans, c'est l'enfant. Mettons qu'une nouvelle est rapportée, puis finalement, ça s'avère faux. Mettons, puis je ne suis pas en train de dire que dans ce cas-ci, c'est faux. Là, je mets toutes les pincettes là, pour dire là, que je... Bon, je relative rien, là, relativise rien. Mais... Tu sais, souvent, le fait d'être un enfant de quelqu'un qui est connu, je vais te dire, t'as intérêt à marcher droit. Parce que si tu marches pas droit, c'est pas long que tu vas te retrouver dans les médias. Et en quelque part, là, moi, je trouve qu'il y a une vraie injustice parce que c'est pas toi qui as choisi de devenir un personnage public. C'est pas toi qui as choisi de faire le saut en politique. Puis tu dois, dans certains cas, vivre avec le poids de ça et les conséquences de ça.
C'est pour ça que les médias ont quand même une sorte de réflexion critique à faire. Quand arrive un événement comme ça, qui est responsable? Est-ce que les personnes qui ont la responsabilité doivent payer et être encore plus stigmatisées parce qu'elles sont le fils d'eux ou la fille d'eux? Et ça, c'est pas facile parce que la tentation, la logique médiatique, ben, c'est de tirer profit de la nouvelle, puis... Je la comprends, j'ai été journaliste pendant 20 ans, je sais très bien, je la comprends, la logique médiatique, mais en même temps, c'est bien, de temps en temps, de faire une sorte de réflexion éthique, puis qui amène vers une autocritique, puis il dit, comment on pourrait traiter ça de façon équitable, cette nouvelle-là? Je vais pas dire de la cacher. Par exemple, surveiller, est-ce que le fait que ce soit le fils d'un ministre est du favoritisme? C'est intéressant comme nouvelle.
Ben justement.
Mais il faut attendre d'avoir des indications qu'il y en a, faut pas le faire à l'avance.
Alors justement, c'est la question qu'on voulait poser à notre prochain invité, mais juste avant ça, je vous remercie, Marc-François Bernier. Je rappelle que vous êtes professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa, où j'ai étudié par le passé, mais il y a longtemps de ça. Merci beaucoup.
Au revoir.
Alors, il vient de poser la question du favoritisme. Ça, c'est l'autre question qu'on s'est posée en préparant le sujet. Est-ce que t'es policier, mettons, puis t'arrives, t'arrêtes quelqu'un, puis tu le reconnais. Oh, c'est tel comédien. Oh, c'est tel politicien. Oh, c'est tel sportif. Ou encore, tu l'arrêtes, baisse sa fenêtre, donne... là, il ressemble, maudit, il s'appelle tel nom, puis il ressemble en sacrifice à l'autre qui a le même nom, comprenez-vous? Est-ce qu'un policier qui est confronté à un personnage public ou à un enfant de personnage public, quelle attitude il prend? Est-ce qu'il va avoir tendance à être un petit peu plus tolérant, mettons? à laisser passer ou est-ce qu'il va vouloir justement montrer « Hey, moi, je donne pas de passe-droit, là, puis ça va passer par là, puis c'est pas parce que c'est quelqu'un de connu, là, je vais l'appliquer, la loi, puis d'une certaine façon, peut-être encore plus durement que si c'était un illustre inconnu. » Jean-François Brochu, ex-sergent de la Sûreté du Québec, qui a été patrouilleur, qui a été au crime contre la personne. Bonjour, Jean-François.
Bonjour, Bernard.
Alors, là, vous allez me dire, vous n'avez déjà arrêté des personnages connus?
Pas tant, mais pas assez proche, mettons. Là. Puis, ou au courant de certains dossiers, oui.
Bon, mais de façon générale, là, entre vous autres, là, les policiers, là, quand vous vous retrouvez face à quelqu'un que vous connaissez, là, qui est une personnalité publique, le réflexe, c'est quoi? Parce qu'on entend tout le temps des histoires, Jean-François Brochu. Vous les connaissez comme moi, là.
Oui.
Oh, hey, moi, je... Tu sais, oh, lui, il est connu, puis le policier, il a fait... Oh! Monsieur un tel! Oh! Ah ben là, faites attention. La prochaine fois, là, je vous donne une petite chance, là, mais là, la prochaine fois, là, je vais devoir être plus sévère. Bonne soirée, là, Jean.
Oui, mais on va faire une distinction tout de suite entre une interception pour une infraction au code de la sécurité routière puis une interception pour un événement criminel, comme en l'espèce. Ici, bon, alors, donc, une interception, par exemple, d'une personnalité connue ou une personne connue, mettons, une personnalité dans le village, une personnalité dans la circonscription où travaille le policier, quelqu'un qui est avantageusement connu, des choses comme ça, c'est certain qu'à quelque part, il y a un petit flag qui s'allume lorsqu'on intervient versus ces personnes-là, lorsque les policiers interviennent envers ces personnes-là. Mais
t'appelles Jean-François, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tu lui donnes une petite chance?
Non, c'est ça, je vais continuer.
Okay.
Alors, mais c'est sûr qu'il y a un petit flag qui s'allume. Mais à partir de là, il faut voir l'évolution de la société, ce qui était acceptable en 1980 ou en 90, et ce qui l'est aujourd'hui en 2018, tantôt, là. Voilà, j'en reviens encore à ma différence entre une intervention au code de la sécurité routière et une intervention en vertu d'une infraction criminelle, l'importance des deux. Et donc, aujourd'hui, en fonction des lois et règlements qui encadrent de plus en plus sévèrement ou sérieusement les pouvoirs discrétionnaires du policier, les interventions, je vais vous dire, moi, où en matière criminelle, on va, passez-moi l'expression, donner un break à quelqu'un, selon moi, là, elle se compte sur les doigts d'une main, peut-être deux, au Québec d'une année, puis encore là, je suis généreux. Selon moi, il y en a très peu. On peut pas dire, on peut jamais dire que c'est l'infini, là, c'est zéro, là, mais il y en a très peu parce que les conséquences pour le policier risquent d'être trop importantes. Le risque ne vaut pas la chandelle. Disons ça comme ça.
OK,
là.
OK.
Le risque n'en vaut plus la chandelle.
Parce que tu peux perdre ta job. Tu peux même plus que perdre ta job. Tu peux être accusé de quoi, d'ailleurs?
Ben, tout à fait. Non, c'est ça.
Entrave à la justice.
Ça pourrait. Ça pourrait. Et voilà. Mais c'est ça. Moi, comme je dis souvent à des gens, écoutez, les filles ont souvent des hypothèques. Ils ont des femmes, des familles, des enfants. Un, ils veulent pas faire la une. Puis deux, ils veulent pas perdre leur emploi. Alors, aujourd'hui, de plus en plus, les policiers, et ça, est-ce que c'est bon pour la société ou pas? Ben ça, c'est un autre débat, mais de plus en plus, donc, on a restreint les pouvoirs discrétionnaires des policiers par la loi et par les différentes réglementations et décisions des tribunaux déontologiques, par exemple, et disciplinaires. Ben là, c'est l'application du code ou l'application de la loi, les deux yeux fermés, by the book, on met les hérédelles, puis go, on s'en va avec ça, avec les conséquences que ça aura, puis c'est le traitement équitable pour tout le monde. Et j'entendais votre invité tantôt parler d'équitabilité, mm-hmm. d'éthique, mm-hmm. de justice, de justement faire attention à traiter les gens tous sur le même pied. C'est la même chose pour les policiers qui sont impliqués dans l'enquête, en l'espèce ici, là. Ben, c'est sûr que ça met une pression, Bernard, disons, appelons ça une pression ou un stress supplémentaire, pas dans le fait de... Puis pas non oublier, là, pas dans le fait d'essayer de donner un break, loin de là. Au contraire, c'est de ne pas ouvrir le flanc, de ne pas ouvrir la porte à un doute de la part de citoyens dans le traitement de l'affaire. Ni en mettant plus, et en mettant moins. Et donc, la rigueur dans une enquête criminelle doit être la même pour tous les gens qui font l'objet d'une enquête criminelle. Peu importe le statut du citoyen, la rigueur et les règles d'enquête doivent être les mêmes. Et donc, les policiers, cependant, dans une affaire comme celle-là, mais je vous donne l'exemple de la caricature, là, où c'est bien certain que dans celle-là, et on le voit, là, tous les médias en parlent, là, tous les médias, ben, c'est les caméras, c'est les journalistes, c'est les réseaux sociaux qui regardent cette affaire-là. Et donc, les policiers, cette petite pression-là, ça dépend des policiers, il y en a qui sont capables d'en prendre plus que d'autres, là, mais c'est sûr qu'elle est là quand même. De bien faire le travail pour s'assurer de ne pas prêter flanc à la critique et au doute.
Parce qu'ils savent que ça va être scruté à la loupe, exactement. Jean-François Brochu, ex-sergent de la Sûreté du Québec, merci.
Ça m'a fait plaisir.
Et là, on va vous demander, les auditeurs, juste avant d'aller à la pause, je vais vous donner le numéro de téléphone. On va élargir un peu la discussion. On va élargir un petit peu la discussion. Et je vais vous demander, est-ce que les parents, jusqu'à quel point on est comme parents responsables des gestes posés par nos enfants, même lorsqu'ils sont rendus adultes. Tu sais, on entend souvent l'expression « une fois que tes parents pour la vie ». Bon, je comprends bien qu'être parent d'un enfant de 12 ans puis être parent d'un enfant de 23 ans, c'est pas la même chose. Mais quand même, toute la question de la responsabilité du parent envers l'enfant qui a mis au monde, qu'est-ce que ça vous inspire, ça, comme réflexion? Est-ce qu'à votre avis, on reste responsable des actes de nos enfants, même lorsqu'ils sont rendus adultes? 790-9850, Drainville, en commercial, 985fm.ca. À tout de suite.